Donc voilà, je vous propose de, si entre-temps, pendant la semaine, vous avez réfléchi à l'un ou l'autre aspect ou vous voulez faire des remarques, voilà, n'hésitez pas.
Et oui, éventuellement, quelle est la quelle est la différence entre comment ça s'appelle, le sacrement de mariage et simplement la bénédiction?
Alors, en vérité, le sacrement du mariage est dans les deux cas, hein. Donc, du coup, vous avez vu, vous vous référez au tableau là qui mettait à côte à côte
Oui.
le sacrement du mariage à l'intérieur de l'Eucharistie, ou dans le cadre d'une célébration eucharistique, ou le sacrement du mariage dans le cadre d'une liturgie de la parole, on pourrait dire, hein. Les
D'accord.
deux sont le sacrement,
Ah, les
hein.
deux sont le
Les
sacrement.
deux sont sacrements. Simplement, l'une, comme j'essayais de vous expliquer, peut-être celle de l'Eucharistie, montre davantage parce qu'on y célèbre l'Eucharistie, le lien entre comment dire, le sacrement et le mystère pascal du Christ. L'Eucharistie célèbre par excellence le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. L'autre, c'est pas qu'il le met moins en valeur, mais peut-être c'est moins perceptible. Voilà. Mais les deux sont un sacrement, ça c'est sûr. Célébré dans deux formes différentes. Hein.
Oui, moi je voudrais savoir pour les mariages quand il y en a quand il y a un des conjoints qui n'est pas baptisé et que il a demandé elle a demandé l'autorisation au Vatican en s'engageant d'élever ses enfants dans la religion catholique. Le sacrement du mariage, ils ont le livret de famille catholique. Il est le même que si c'était les deux baptisés, puisque le pape a donné son autorisation.
Bien sûr, ça c'est vous le savez bien, vous le savez bien. Je vous rappelle, Anaïs, et à tout le monde, que cela est vieux comme Saint Paul, hein. Saint Paul déjà se pose la question, qu'est-ce qu'elle doit faire une épouse ou un époux qui n'a pas le conjoint qui est chrétien, par exemple, vous voyez, qui a. Et donc, il dit, il faut que, voilà, qu'on le vive de cette manière-là. Il y a une prise de conscience qu'on n'est pas tous au même niveau, au niveau de la foi. Mais n'importe, c'est. Voilà, c'est.
D'accord. Alors,
Mais je ne sais
moi,
pas
par
si.
rapport.
Oui, je ne sais pas si Claire avait terminé. Claire, ça a
Oui.
répondu. Oui. Marianne.
Non, je voulais dire que j'ai réalisé la semaine dernière, dans le cours sur le sacrement de mariage, que. Alors, nous avions, nous, le 14 mars, une session aussi de préparation au mariage sur notre paroisse avec mon mari et des fiancés. Je dois dire que. Bonjour. Attendez, excusez-moi, je suis obligée de
Oui,
couper.
bien sûr, bien sûr.
Excusez-moi.
Oui.
Vous voulez finir, c'est important? Non, non,
Parfait. Donc, d'autres auraient des remarques ou des questions? Ça marche?
Oui, surtout qu'il fait un temps magnifique aujourd'hui.
Ah oui, ça c'est sûr, le temps est extraordinaire et magnifique. Oui. Voilà. Oui, mais en même temps, je voudrais juste vous partager cette expérience de vie que, un peu en faisant référence, entre autres, au document que je vous avais donné, le troisième document qui permettait de actualiser et de voir quelles sont les questions actuelles. C'est vraiment un partage d'expérience. J'ai un frère qui a eu trois filles, dont les trois filles, je crois que je vous le disais la dernière fois, aucune n'est mariée, je pense même pas civilement. Hein, donc, et une d'elles a décidé, après la naissance du deuxième enfant, de se marier à l'église. Donc, ils le feront en mai, à l'occasion du baptême du petit dernier, qui s'appelle Matteo. Ils vont se marier à l'église. Mais alors, du coup, vous voyez, c'est un choix qui vient après une expérience de vie. C'est intéressant aussi de voir ces évolutions, je dirais, dans la société, mais qui amène, à mon avis, des changements aussi dans notre manière d'apercevoir les sacrements. Du coup, vous voyez bien que le sacrement, là, est une sorte de perception de présent, peut-être, je ne vais pas parler avec ma nièce encore, mais de la présence de Dieu dans leur vie. Ils veulent le manifester par ce sacrement et une certaine stabilité, j'imagine, hein, aussi de vie affective après avoir vécu quelques années ensemble. Voilà. Je pense que de plus en plus, on a des expériences de ce type-là. Et je pense que le fait de cohabiter, par exemple, il y a pas mal de couples qui cohabitent sans vouloir se marier nécessairement, peut devenir une occasion de, comment on peut dire ça, de préparation, de connaissances réciproques. Vous voyez,
très bien.
Le temps est beaucoup plus long pour pouvoir penser de s'unir du point de vue sacramentel. Et parfois, peut-être effectivement, comme je vous disais, ce n'est pas le cas de ma nièce, mais parfois, cela peut arriver à la préparation de la première communion des enfants. Alors, l'enfant demande, mais pourquoi vous n'êtes pas marié? Alors, les parents se marient. Voilà, donc il y a pas mal de choses comme ça qui arrivent aujourd'hui dans la société et dans l'Église qui sont assez intéressantes. Comme possibilité de la, comme indication que Dieu agit toujours, voyez, ça, c'est très important. Je sais pas qu'est-ce que c'est l'expérience d'Annie et Denis les a amenés à vivre des expériences de ce type-là, de couples qui auraient effectivement validé, qui auraient célébré leur mariage après plusieurs années de vie ensemble.
Oui.
Oui, ça vous est arrivé.
C'est plus, enfin, je trouve que c'est plus une action de grâce à ce moment-là.
Oui.
Par rapport au mariage. Alors, effectivement, c'est le sacrement du mariage, mais c'est comme un remerciement, enfin, voilà.
Oui. Oui, c'est ça. C'est prendre conscience que Dieu agit dans la vie d'un couple, de quelqu'un, oui. Voilà, donc j'entendais aussi, il y a quelques jours, j'étais à un atelier de doctorant à l'Institut catholique et une collègue qui a travaillé sa thèse sur le mariage, donc une femme mariée, elle nous disait justement que sa réflexion portait sur, sa thèse portait sur cette double perception du sacrement du mariage. On a toujours considéré, peut-être à tort, le mariage comme un acte légal, comme un acte presque de droit, vous voyez. Moi, on a plutôt souligné cet aspect-là de contrat, surtout dans la tradition catholique, assez souvent. Et par contre, aujourd'hui, on est en train, je le montrais avec la bénédiction du mariage, la bénédiction des époux, comment par contre on a comme l'impression qu'on ouvre une autre perception du mariage, c'est-à-dire comme un don fait par Dieu au couple de leur amour, de leur vie commune. Vous voyez, donc du coup, ce n'est plus question de considérer le mariage du point de vue du contrat, mais plutôt de la grâce que Dieu donne de vivre l'amour. Vous voyez, c'est différent. Alors, je pense que ce serait intéressant et important de considérer le sacrement sous cet aspect et pas simplement comme un contrat. Voilà.
Moi, je trouve que ça donne aussi une importance considérable les sacrements d'initiation ont une place considérable dans le mariage.
Oui.
Parce que c'est vrai que l'amour, c'est un don de Dieu et qu'il faut le faire fructifier, le faire grandir.
Tout à fait.
Tout seul, si on se regarde dans le blanc des yeux, au bout d'un moment, ce n'est pas suffisant.
Tout à fait, tout à fait. Cela est vrai pour n'importe quelle union, hein, union ou partage de vie. Là aussi, c'est un témoignage plutôt personnel. Il est clair que même la vie communautaire... Hein, une fois il faut la renouveler tous les jours, hein. Donc du coup, le fait de partager une vie, mais je pense encore plus le partage d'une vie par le sacrement du mariage ou par l'union du mariage ou par la vie commune, n'importe, demande un engagement continuel et quotidien. Mais ce qui m'intéresse, Ariane, en quel sens, parce que c'est intéressant ce que vous dites sur les sacrements d'initiation, en quel sens vous dites ça?
Parce que, en fait, moi, je suis responsable du catéchuménat dans ma paroisse.
Oui.
C'est vrai que depuis 4-5 ans, je vais souvent voir les jeunes fiancés.
Oui.
Lors d'une des sessions qu'ils ont avec l'équipe du CPM. Et on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui sont soit pas confirmés, soit certains qui ne sont pas baptisés non plus ou qui n'ont pas fait leur première communion. Mmh. Et moi, je vais les voir pour essayer de leur dire que ces sacrements, ils sont au service de la vie chrétienne et que le mariage, c'est aussi une vocation particulière à laquelle on est appelé.
Mmh.
Et que donc, ces sacrements sont au service de leur mariage. Et,
oui, tout à fait. Oui, c'est intéressant. Et en plus, on pourrait ajouter à ce que vous dites, qui est très important aussi, qu'effectivement, on peut considérer le mariage lui-même comme faisant partie d'un processus d'initiation.
Oui.
C'est-à-dire que ça peut être une étape vers la perception de la vie, de la grâce donnée par Dieu. Hein. Donc, du coup, peut-être une des étapes, comme le devient désormais, à nouveau, j'insiste, le baptême de l'un des enfants, par exemple. Décider de baptiser un enfant alors qu'on n'est pas marié, assez souvent provoque chez les mariés la volonté de vivre le sacrement du mariage. Vous voyez. Donc c'est intéressant de voir comment désormais cela nous permet, et là je tire déjà un peu les fils de notre cours, permet de voir les sacrements, j'insiste beaucoup, pas comme un moment où on valide quelque chose, vous voyez, comme s'il fallait passer un examen. Ce n'est pas ça les sacrements. Les sacrements sont une célébration de la grâce de Dieu. On célèbre la grâce de Dieu dans nos vies, là où on en est, vous voyez. Ce n'est pas « je dois être prêt pour », vous voyez. Ce n'est pas une question d'être prêt, on ne sera jamais prêt face à la grâce de Dieu. Hein. La grâce de Dieu nous dépasse. Et donc, par contre, nous serons prêts peut-être à la recevoir, à entrer dans cette dynamique de grâce. Ça oui, je pense que c'est important de le prendre en compte. Et donc, la notion d'initiation, là, est tout à fait la bienvenue. On pourrait voir effectivement le mariage comme l'une des étapes de la vie sacramentelle qui englobe d'autres étapes suivant là où on en est avec la vie sacramentelle.
S'il vous plaît, je voudrais poser une question concernant... toujours des questions simples, ne m'en voulez pas. Hein,
Mais une question est importante.
Oui, le mot sacrement, cela veut dire tous ces sacrements. On rentre dans une vie sacrée, n'est-ce pas? C'est ça, ça viendrait de là?
Alors, c'est moins lié à l'idée de sacré que de alliance, que engagement. Vous voyez, le mot sacrement,
oui.
Je le prends dans son acception de la langue latine, hein? Le mot sacramentum, comme je le prononce, vous l'écrivez comme je le prononce, sacrement, sacramentum. Dans la langue latine, quand il a été quand plutôt un auteur chrétien qui s'appelle Tertullien, je vous l'écris ici. Je ne sais pas, peut-être qu'on n'en avait pas parlé, voyez. Tertullien, c'est un auteur entre le deuxième et le troisième siècle de l'ère chrétienne. Il est originaire de l'Afrique du Nord et c'est lui qui, en faisant référence à l'engagement des militaires ou d'une personne dans l'armée, reprend le mot de latin, je vous l'écris aussi, sacramentum, voyez. Et ce mot-là, à cette époque-là, dans la langue latine, employé donc dans la vie civile, et donc d'une part dans le domaine de l'engagement dans l'armée, mais aussi dans les questions de droit. Dans les deux cas, voulait dire que quelqu'un s'engageait envers quelqu'un. Quelqu'un faisait, voilà, je dis s'engager, parce que c'est le mot le plus près pour dire qu'est-ce que ça veut dire en latin. Après, les chrétiens, donc concrètement, qu'est-ce qu'il fait Tertullien ? Tertullien applique ce mot au baptême. Et il dit, en gros, le baptême nous engage, nous fait rentrer dans l'alliance avec Dieu. Alors, l'engagement à cette époque était encore plus perceptible quand il parle du baptême. Dans la mesure où le baptême, je reviens un peu en arrière, mais ça permet de compléter ce que nous avons dit. Le baptême à cette époque était célébré toujours avec une immersion dans l'eau, mais on posait trois questions au baptisé. On lui demandait « Crois-tu au Père ?» Et la personne répondait « Oui, je crois », et il était plongé. « Crois-tu au Fils ?» « Oui, je crois », et il était plongé. « Crois-tu à l'Esprit-Saint ?» « Oui, je crois », il était plongé. Donc, vous voyez, il y avait une sorte de dialogue qui mettait en œuvre, c'était une mise en œuvre d'un dialogue qui disait la volonté, le désir, la liberté aussi, parce qu'on faisait librement, de vivre une alliance avec Dieu au cœur même de la Trinité, parce qu'on nommait les trois noms divins. Et donc, c'est plutôt en ce sens-là. Et alors, bon, naturellement, oui. Après, en reprenant votre question, Anaïs, ça peut avoir une dimension, ça, puisque c'est un geste d'alliance que l'on fait avec Dieu, eh bien, cela a une dimension sacrée. Ce n'est pas un sacrement comme s'engager dans l'armée ou régler des questions juridiques entre deux parties adverses, vous voyez, dans un tribunal. Ce n'est pas ça. Tertullien veut dire ça, effectivement. Mais vous voyez, l'origine est vraiment celle-là.
Merci beaucoup.
Alors, maintenant que Marianne... Ah oui, Marianne est revenue et elle avait commencé quelque chose, si elle veut et si elle peut encore.
Oui, excusez-moi, il y avait le kiné qui venait, donc...
Bien, c'est plus important. Voilà. C'est le sacrement du kiné, ça.
J'ai réalisé, parce que nous avions le 14 mars une session de préparation au mariage avec mon mari et les 7 jeunes couples de la paroisse, et j'ai réalisé dans ce que disait, on a une manière de faire qui est un peu particulière, c'est-à-dire qu'on sépare les hommes des femmes pour parler des thèmes. Et le premier thème qu'on aborde, c'est, on va l'intituler « Dieu sur notre chemin ». Alors, bon, voilà, c'est structuré comme ça dans la préparation sur notre paroisse. Et il y a un certain nombre de questions dont on parle ensemble, et c'est vrai que la parole est plus libre peut-être quand on est entre femmes ou entre hommes. Et c'est l'idée de l'équipe qui avait mis ça en place. Et ces jeunes femmes, qui pour une fois le groupe était assez homogène, ont beaucoup dit que c'était le premier sacrement de leur vie adulte qu'elles allaient recevoir. Et je me suis rendu compte, en parlant avec elles, que le dernier sacrement qu'elles avaient reçu, c'était la confirmation, et pas toutes. Mais ça, tous les gens qui font de la préparation au mariage le savent. Et que du coup, il y avait dans la préparation au mariage, par rapport à ce que vous avez dit sur la bénédiction nuptiale, avec l'imposition des mains au-dessus des jeunes mariés, d'un seul coup, et pourtant nous avons 42 ans de mariage, je me suis dit, mais dans un mariage, on est toujours plus centré sur l'échange des consentements, qui est entre guillemets très émotionnel, beaucoup plus que sur la grâce du sacrement qui se donne dans cette bénédiction nuptiale et sur laquelle on insiste moins. Et du coup, j'en ai reparlé à notre curé, en fait par mail, parce que je partais à l'hôpital, en disant c'est un élan pastoral préopératoire, mais il me paraît important qu'on insiste sur cette bénédiction nuptiale, ouais, dont le texte est très fort, oui, en fait, et là qui rejoint ben, les alors peut-être pas le sacrement de l'Eucharistie, mais dans la confirmation ou dans l'imposition des mains sur le couple, enfin c'est très fort et c'est là, oui, où on peut ressentir la grâce du sacrement. Et du coup, ça m'est venu d'un seul coup là après votre cours, après que vous ayez parlé de la bénédiction nuptiale et encore plus après que vous les ayez envoyés, en fait. Voilà, et j'ai trouvé ça très fort parce que finalement ces jeunes, depuis leur confirmation ou depuis leur première communion, ils n'ont pas vécu de sacrement.
Oui. Ce que vous dites, Marianne, illustre de manière très précise, avec un exemple tout à fait vivant, ce qu'on s'est dit pendant que vous étiez avec le kiné.
D'accord.
Non, mais c'est très bien. Parce que d'une part, nous disions tout à l'heure, c'était Ariane, pas Marianne, qui disait que justement le sacrement du mariage met en valeur le sacrement de l'initiation, vous voyez. Donc effectivement, comme vous dites, les futurs mariés découvrent que c'est leur premier sacrement en tant qu'adulte. Alors du coup, ça fait penser qu'ils ont eu d'autres sacrements. On rentre dans une initiation dans la vie sacramentelle, vous voyez. Donc du coup, il y a ça. Et puis, l'autre, c'est clair qu'il serait très intéressant, à mon avis, dans une préparation du mariage, mais là, c'est une suggestion, c'est pas moi, je ne fais pas de pastoral, mais c'est vous qui le faites dans les lieux où vous êtes. Ce serait très intéressant de penser une préparation du mariage à la lumière de l'initiation chrétienne elle-même,
oui,
c'est-à-dire de la vivre par étapes, vous voyez,
oui,
les initiés. Parce que là, à nouveau, si on compare ce que vivent des mariés avec l'initiation chrétienne, là aussi, si nous réfléchissons, la rencontre entre deux personnes est quelque chose dans laquelle Dieu les précède. S'ils prennent conscience de ça, c'est un peu comme la période de la première évangélisation dans le rituel de l'initiation chrétienne. La grâce de Dieu agit même avant nous. Elle nous dépasse toujours, même elle vient après nous, vous voyez. Donc du coup, je pense que ça, penser à un amour, la manière dont l'amour ou l'attention de l'un vers l'autre est née, c'est dire cette grâce. Et donc du coup, cela permet de comprendre mieux le pourquoi d'une bénédiction nuptiale. Parce que la vie sacrament, le sacrement du mariage est de l'ordre d'une bénédiction.
Oui.
Vous voyez ? Ce n'est pas de l'ordre d'un contrat, je dirais.
Oui.
Mais il faudrait éviter de le réduire à ça. Parce que vous voyez, si un jour où les choses, comme disait Ariane, deviennent plus difficiles à vivre ensemble, si je ne m'appuie pas sur cette grâce que j'ai reçue, ça devient très compliqué.
Oui.
Si tout était contrat, au moment où je veux terminer ce contrat, vous voyez, ça peut être vraiment affreux et dur.
Oui.
Bon, donc, merci pour cela.
Voilà.
Je vous propose, maintenant que Marianne est revenue, de parler du sacrement des malades. Comme ça, nous faisons un cours tout à fait vivant. Je partage l'écran. Et justement, nous venons de l'évoquer, je ferme ça, voilà. Nous venons de l'évoquer, je voudrais juste que nous prenions conscience ensemble, nous sommes vers la fin du cours, hein, de ce que nous venons de dire en vérité, hein, l'idée du fait que toute la vie sacramentelle est de l'ordre d'une initiation. Hein, et donc, je vous remets ce tableau qu'on avait vu ensemble tout au début, je me permets de le faire pour vous dire. Vous savez, quand on voyage, on dit « vous êtes ici » et nous sommes ici aujourd'hui, hein, donc nous sommes là. Mais vous voyez que nous avons parcouru tous ces sacrements-là, hein, qui sont mis dans l'axe du mystère pascal. Donc, je vous disais, au cœur même, il n'est pas marqué là, mais au cœur même, on pourrait dire, de la structuration des sacrements ou de la dynamique plutôt, c'est plus juste dire ça, au cœur même de la dynamique sacramentelle, il y a le mystère pascal, la mort et la résurrection du Christ. C'est même providentiel que nous arrivions au terme de ce cours avec, à l'approche des fêtes pascales, parce que les fêtes pascales nous font vivre de manière concrète, sacramentelle, on peut vraiment le dire, où nous font célébrer le mystère de la Pâque du Christ, de la mort et de la résurrection du Christ. Eh bien, vous voyez comment, effectivement, tous les sacrements passent à travers cette expérience du mystère pascal. Le mariage aussi, hein, le don qu'on fait l'un à l'autre, c'est le pape Paul l'avait dit, avant même qu'on le dise en théologie, il avait dit le mystère du Christ et de l'Église est comparable, dit-il, au mystère de l'homme et de la femme. Hein. Donc, et là, c'est pareil. Aujourd'hui, nous allons voir le sacrement des malades comme l'une de ces étapes dans la vie que peut-être que nous rencontrons, que nous pouvons rencontrer nous-mêmes ou que nous rencontrons chez nos frères et sœurs chrétiennes. Hein. Donc, c'est très important. Hein. Ne pensez pas simplement malade, moi malade, mais pensez aussi malade quelqu'un d'autre que moi. Parce que nous verrons que le sacrement des malades a un sens dans la mesure où il répond au devoir, voilà, au devoir qu'a l'Église d'être proche de ceux qui sont malades, donc de ceux qui sont dans le besoin, en particulier du point de vue de la santé. Et donc, on disait, ce sont des situations dans l'Église, hein, au sens que, bon, on n'est pas tout le temps malade, si Dieu nous donne la grâce, on ne le sera pas. Sûrement, on s'approchera de la vieillesse. Ce n'est pas une maladie, mais c'est une diminution de notre possibilité d'exercer notre vie et nous aurons peut-être des ennuis de santé, comme on dit aujourd'hui. Eh bien, effectivement, considérons cela à partir de ça. Et puis donc, la prochaine fois, ce sera les funérailles qui ne sont pas, je le répète, un sacrement, mais qui rentrent dans cette dynamique. Et donc, voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons donc parcourir à nouveau la partie plutôt historique, vous voyez. C'est très, à nouveau, très pédagogique, très intéressant de voir comment on a pu mettre en valeur cela. Ce sacrement et comment on a pu le renouveler au moment du Concile Vatican II. Et à partir de ce renouvellement, nous allons voir de plus près le rituel en tant que tel et quel est le sens de ce sacrement. Et donc, je commencerai tout simplement d'une introduction qui essaye d'encadrer, de mettre dans le contexte ce sacrement et vous montrer d'abord dans la perception du rapport entre l'homme et la maladie, vous rappelez que nous prenions conscience que jusqu'à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, donc c'est récent, XVIIe, XVIIIe siècle, la maladie était définie uniquement du point de vue subjectif. Du point de vue subjectif, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends le fait qu'on estimait la gravité du mal d'après l'état où est réduit le malade, qui, je vous rappelle, encore au XVIIe, voire au XVIIIe siècle, qui pouvait être encore jeune, un malade, et encore plus au Moyen-Âge, je pense, on pouvait être concerné avec la maladie de manière très jeune. Et donc, en raison de la durée habituellement brève de la maladie, quand on était malade, c'était presque la porte pour le trépas, hein, la mort. Eh bien, malgré la durée habituellement brève de la maladie et de l'absence de traitement spécialisé, le malade était habituellement soigné à la maison. Je dis bien au moins jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Et donc le malade, avant ces époques-là, ne connaissait pas l'épreuve de la séparation, de la solitude, de l'isolement. Vous voyez? Parce que, je vous fais remarquer que nous l'avons vu avec la COVID, hein, mourir à l'hôpital seul, c'est terrible. Ne pas pouvoir être accompagné dans la maladie, c'est la chose peut-être la plus terrible qu'on peut vivre. Et même, compte tenu de la, comment on peut dire ça, de la vie qui se rallonge aujourd'hui, bien c'est souvent les personnes âgées sont appelées, je ne dis pas tout le temps, mais la plupart du temps, à vivre dans un autre lieu que leur propre lieu de vie. Et s'ils ont une famille qui les suit, c'est très bien. Mais si la famille, s'il y a une rupture en famille, ils vivront dans la solitude complète, cette situation de maladie et de vieillesse. Vous voyez. Et donc, tout cela pour vous montrer d'où nous venons pour prendre en compte la maladie. Eh bien, un tournant décisif va être pris au XXe siècle, et particulièrement au cours de ces 50 dernières années, marqué par l'extraordinaire développement de la médecine, de la chirurgie, de la spécialisation, des centres hospitaliers. Et ça, c'était vraiment une révolution par rapport à la perception de la maladie. Et donc, cette situation nouvelle entraîne au plan social, au plan culturel, d'importantes conséquences. Quelles sont ces conséquences? J'essaie de vous les dire très brièvement. Tout d'abord, et principalement, le fait que la maladie est devenue une des préoccupations les plus constantes, les plus angoissantes même, de l'homme contemporain. On ne veut pas tomber malade. Alors, vous l'avez remarqué, le phénomène le plus éclatant de ça, vous voyez bien que tous les centres de bien-être, tous les centres de massage, de tout ce que vous voulez, voilà, montre bien qu'on n'a pas envie, en vérité, ni de vieillir, ni de tomber malade, ni voilà. Et parfois, cette préoccupation devient une manière d'être. Mais en même temps, la maladie, puisque la vie se rallonge, eh bien la maladie devient assez souvent un état de vie prolongé, parfois permanent. C'est pourquoi aujourd'hui la maladie n'est plus comme autrefois en étroite connexion avec la mort. Autrefois on disait il est malade, il va mourir. Aujourd'hui non, aujourd'hui on peut dire il est malade, mais il peut vivre de sa maladie plusieurs années. C'est grâce, je dirais, au traitement, au suivi médical, aux soins que l'on apporte. Vous voyez, là, vraiment, il faut saluer comme un avancement de la, on pourrait dire, de la capacité de l'humanité à évoluer. C'est une belle évolution. Et donc, concrètement, être malade aujourd'hui ne signifie pas courir un danger de mort, comme ce l'était au XVIIe encore, voire XVIIIe siècle, et auparavant encore plus. D'où, et je veux vraiment vous montrer, pointer cela, parce que ça va être le propre du cours, hein. D'où une problématique théologique. C'est-à-dire, quelle est la question théologique face à cette évolution? Eh bien, je la formulerai de cette manière-là, en prenant comme référence les publications théologiques qui concernent le sacrement de l'onction des malades. Eh bien, dans ces publications peuvent se dessiner quelques grandes orientations. L'une peut considérer le sacrement des malades comme ceux qui parachèvent la pénitence. Donc, vous voyez, on considère le sacrement des malades du côté des sacrements de guérison, un peu comme la pénitence, un peu comme la réconciliation. En effet, il s'agit de guérir le pécheur chez le chrétien gravement malade. Et donc, on unit quelque part dans cette conception liée plutôt qui rallie le sacrement des malades au sacrement de réconciliation. Une autre orientation peut considérer le sacrement des malades comme la sanctification de la mort du chrétien. Et donc, du coup, par le sacrement de malades, on se prépare à la mort. Et une autre orientation peut considérer le sacrement de l'onction des malades comme le sacrement des malades. Et c'est cette dernière orientation, les premières, nous les verrons tout au long de l'histoire de la tradition liturgique, mais cette dernière perception, orientation, c'est de considérer le sacrement de l'onction des malades comme le sacrement des malades, eh bien, cette orientation a été prise par le Concile Vatican II. Dans le renouvellement des sacrements, cette orientation a été prise en compte. Pourquoi? Parce que cette orientation élargit l'administration du sacrement aux malades et qui ne sont pas nécessairement en danger de mort. Voyez, il prend en compte la maladie en tant que telle, pas la maladie parce qu'il faut mourir. Voyez, mais comme une situation, comme une condition de vie. Et donc, quelque part, et même sûrement, elle dépasse la vision théologique précédente qui considérait le sacrement des malades comme étroitement lié à la mort. Voilà. Je vais donc vous montrer comment dans l'histoire cela évolue. C'est très important. Vous vous rappelez que j'espère de vous avoir donné ce goût, d'avoir fait prendre conscience de l'importance de l'évolution dans l'histoire, parce qu'elle nous dit quelque chose de comment un sacrement apparaît ou comment il se constitue, mais aussi il nous permet de voir peut-être les dangers que nous pouvons courir si on considère le sacrement d'un côté ou de l'autre. Voyez, les leçons de l'histoire sont là un peu pour mettre en garde, pour ne pas tomber dans des travers tels que nous les avons aperçus pour l'un ou l'autre sacrement à une époque donnée de l'histoire. Je commencerai à partir des données bibliques, hein, au tout premier siècle du christianisme. Et la première perception est celle du Christ qui guérit les malades. C'est peut-être ce qui nous frappe. Si vous lisez les évangiles, si vous ouvrez les évangiles, les tout premiers chapitres des quatre évangiles, notamment des trois évangiles dits synoptiques, on voit vraiment qu'il y a une relation étroite entre Jésus et les malades. Jésus guérit les malades. Et en effet, l'espérance de l'attente du retour du Messie, hein, déjà dans l'Ancien Testament, annoncé par les prophètes, va aboutir dans ces signes de guérison de la part de Jésus. Dans le Christ ou en Jésus, cette annonce de temps nouveau, de temps où les gens ne pleureront plus, où il n'y aura plus de maladie, est montrée concrètement par Jésus. Quand il apparaît au milieu de nous, et en effet, les miracles sont dans les miracles de guérison, hein, sont dans les évangiles, où on donne dans les évangiles le rôle d'être le signe que le royaume de Dieu est déjà là. Le royaume de Dieu est déjà là. Et que la maladie peut être vaincue. Que la victoire de Dieu sur le péché et sur ses conséquences est déjà commencée. Vous remarquerez entre autres que les évangiles mettent assez souvent en relation guérison d'une maladie et pardon des péchés. C'est pas, attention, il faut faire attention, Jésus est clair en ce sens. C'est pas que celui qui est malade est pécheur, mais maladie et condition de pécheur, condition pécheresse, sont le signe d'une mort. Hein, voilà. Et donc, effectivement, le Christ, en ce sens, écarte la conception éthique qui attribue à une faute l'origine de la maladie. Hein. Nous l'avons, entre autres, dans le récit magnifique que vous pourrez relire, parce que c'est l'un des évangiles, et même nous l'avons lu, si vous aviez des catéchumènes chez vous, le dernier dimanche du carême, l'évangile du Christ de l'aveugle-né. Hein. Dans le récit de l'aveugle-né, dans l'évangile de Jean, au chapitre 9 et au verset suivant, Jésus exclut explicitement le rapport causal entre le péché et la maladie. Et d'autre part, il se montre intéressé à la signification de la maladie dans le plan de Dieu. Le Christ, donc, on pourrait dire, pour conclure cette partie sur la vision du Nouveau Testament concernant la maladie, on pourrait dire que le Christ apparaît dans les évangiles comme vivant pleinement l'expérience du serviteur souffrant, du serviteur du Seigneur, qui expérimente dans le partage, dans la solidarité, l'état de faiblesse de la créature, l'état d'obscurité, l'état de tentation. Et donc, il montre une claire solidarité avec la condition humaine dont la maladie est une des expériences. Par la suite, il y a l'expérience des communautés chrétiennes primitives. Là, nous étions à l'expérience, ou plutôt au témoignage que nous donnent les évangiles concernant le Christ. Et là, si nous regardons à la suite du Christ comment les communautés chrétiennes vivent cette expérience de la maladie, eh bien, on peut dire que les premières communautés chrétiennes prolongent les gestes de guérison de Jésus. les premiers, les apôtres, les disciples du Christ prolongent les gestes de guérison de Jésus. On peut le retrouver partout dans les évangiles, sur le commandement même de Jésus ressuscité. Si vous vous rappelez, si vous allez regarder la finale, je crois bien de l'évangile de Matthieu, Jésus ressuscité dit, allez baptiser, faites des disciples, guérissez les malades. Et c'est une des envois de Jésus, que Jésus fait à ses apôtres. Et donc, les communautés chrétiennes, en prolongeant le geste de Jésus, affirment ainsi la présence du royaume et mettent en évidence la force libératrice de cette présence. Il est très intéressant de voir que, par exemple, un Paul, un saint Paul, présente le charisme de guérison comme un service pour l'édification de la communauté. Guérir, avoir le don de guérison, fait partie d'un service que l'on a pour l'édification de la communauté. Il dit ceci dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, versets 9 à 28. Mais c'est surtout le texte de la lettre de Jacques. La lettre de Jacques, au chapitre 5, versets 14 à 16, va être au centre de la réflexion chrétienne ultérieure concernant l'activité de guérison et de soins des malades. Je suis en train de chercher le passage pour vous le lire, comme ça vous entendez, parce que c'est vraiment le texte qui a permis aux premiers chrétiens de prendre en compte l'importance de ce sacrement ou de ce geste. Voilà, c'est dans donc la lettre de Saint Jacques. Je suis là au verset 13 et puis je continuerai au 14 ou 15. Écoutez ce qu'il dit. Si l'un de vous est dans la souffrance, qu'il prie. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante le Seigneur. Si l'un de vous est malade, qu'il appelle ceux qui exercent dans l'Église la fonction d'ancien. Ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de la fonction ecclésiale dans le cas de la maladie de l'un ou l'autre de ses membres. Et vous entendez bien, il y a là l'idée d'onction, de prière faite sur le malade. Et bien justement, cela nous permet de voir comment, du coup, à partir de cette parole de Jacques, de la lettre de Jacques, qui devient le lieu scripturaire auquel se réfèrent toutes les pratiques chrétiennes, on va avoir une traduction liturgique, celui-là au point 1-2, qui va évoluer. Et je voudrais vous montrer rapidement cette évolution. Donc tout d'abord…
Excusez-moi, il y a quand même toujours cette notion de péché liée à la maladie aussi.
Oui, mais justement, j'insiste beaucoup… Pas pour dire tu es malade donc tu es pécheur. Jésus, je le disais tout au début, Jésus, il est clair, oui. Il ne met pas en relation les deux.
Hein? Oui, Jésus, mais après là.
Mais les communautés chrétiennes aussi. C'est-à-dire que la maladie, à cette époque, hein, amena à la mort est signe de du mystère du mal. La mort en tant que telle est signe du mystère. C'est en ce sens-là qu'il faut le penser. Et donc, si la maladie me conduit à la mort, effectivement, ce n'est pas que je suis pécheur, mais je risque de vivre dans une situation de mort, justement, dans une situation négative. Voyez ? Mais ce n'est pas qu'on fait le rapport entre malade et pécheur. Voilà. Et donc, j'en viens au geste rituel de ce sacrement. Et donc, les premiers siècles sont caractérisés, donc entre le premier et le quatrième siècle, nous n'avons pas beaucoup de sources explicites et directes concernant le sacrement des malades. Parmi les sources liturgiques que l'on a coutume d'examiner pour cette période, on peut remarquer celle donnée, vous vous rappelez, on l'a cité plusieurs fois dans nos cours, d'un document tout à fait fiable qui s'appelle la tradition apostolique. La tradition apostolique. Je le rappelle, c'est un texte anonyme qui a ce titre simplement pour avoir de l'autorité. Ce n'est pas des écrits des apôtres, mais ce sont des écrits des églises en vérité. Eh bien, dans ce texte, on retrouve une pratique concernant l'onction des malades, et l'élément central de cette onction des malades est la bénédiction par l'évêque durant la célébration eucharistique de l'huile destinée aux malades. Donc, si on bénit une huile qui est destinée aux malades, cela veut dire que cette huile était employée pour oindre les malades. Et en outre, ce même texte recommande à l'évêque de visiter personnellement les malades que les diacres pouvaient lui signaler. Donc, oui, le rôle des diacres, c'est de faire le tour des maisons, si je peux dire, et puis de courir chez l'évêque et dire ah, « Tiens, dans cette maison, dans telle maison, il y a un malade. » Et l'évêque allait courir pour oindre le malade. Donc, vous voyez quel était… Ce document nous permet simplement de montrer, je dirais, je résumerai, le souci qu'a l'Église de poursuivre ce que Jésus demande, ce que Jésus a fait, ce que la première Église demande dans la lettre de Jacques, et donc d'un accompagnement, d'un soin des malades par cette onction d'huile. Quand nous passons au 5e et au 7e siècle, pour cette époque, les témoignages deviennent plus nombreux. Il s'agit encore de formules de bénédiction de l'huile, et ces textes, quelque part, sont en continuité avec la tradition apostolique à laquelle j'ai fait référence. Et ils insèrent la formule de bénédiction de l'huile à l'intérieur de la prière eucharistique. C'est assez intéressant, à nouveau, je vous ferai remarquer l'importance d'insérer une prière de bénédiction à l'intérieur même de la prière eucharistique, là où on consacre les dons eucharistiques. Eh bien, à part cela, d'autres sources, notamment l'intervention du pape, l'intervention des évêques ou d'autres sermons, nous permettent de saisir concrètement la pratique de l'onction durant ces quelques siècles, entre le 5e et le 7e siècle. Les fidèles, alors en quoi consiste cette onction ou ce rite? Les fidèles malades peuvent être oints avec l'huile sainte du crème, du Saint-Crème. Cette huile est consacrée par l'évêque et il est permis non seulement aux prêtres, mais aussi à tous les chrétiens. Alors ça, c'est important de le souligner. Pas seulement aux prêtres, mais aussi à tous les chrétiens d'utiliser cette huile et de s'anoindre ou d'anoindre leurs proches. Vous voyez, on peut utiliser pour soi ou pour les autres l'huile. Donc, on peut concrètement, comment pouvait ça passer? On allait chercher de l'huile consacrée par l'évêque, destinée à l'onction des malades, et on pouvait, sans que le prêtre vienne, ou se oindre soi-même si on était malade, ou oindre des malades. Voyez, donc, il y a une sorte de ministérialité qui dépasse le cadre du ministère ordonné, on pourrait dire. Entre le 8e et le 12e siècle, les sources sont encore plus nombreuses, sont très nombreuses. Et le centre de gravité du sacrement, ça c'est à remarquer, remarquez-le, ce n'est plus la bénédiction de l'huile. Ce n'est plus la bénédiction, c'est le fait de bénir l'huile en vue des malades. Ce n'est plus ça qui est important. Mais ce qui devient important, c'est l'administration de l'onction, le fait de oindre le malade. Et donc, à cette époque, apparaissent, entre le 8e et le 12e siècle, apparaissent les premiers rituels, les premiers livres rituels, qui sont destinés pour visiter et oindre les malades, qui servent pour quand on va visiter et oindre le malade. Et ces rituels se caractérisent par une grande variété de prières et de gestes, par une grande liberté par rapport au nombre et à l'emplacement des onctions, et par une multiplicité de rites et de prières. Alors du coup, et ça c'est aussi important à remarquer, nous sommes là entre le 8e et le 12e siècle, on va monter, on pourrait dire, le rôle des prêtres. Le rôle des prêtres. Ce sont les clercs qui assument désormais le rôle le plus déterminant. L'onction est désormais réservée aux prêtres. Et on souligne de plus en plus les effets spirituels de l'onction des malades. Cela est très important. Et à partir du Xe siècle, surtout, on envisage l'aspect, alors là, oui, là, c'est inquiétant, on envisage l'aspect de la purification du mal. De la purification du mal.
Oh là là, ça fait trop chamanique, cette affaire-là.
Voilà. Et donc, l'évolution la plus importante et la plus significative se fait par le déplacement du rite de l'onction, et là, je crois que c'est important de le souligner, vers le moment de la mort. Donc, vous voyez, j'arrive. Je conclue juste pour vous faire prendre conscience de ça. Vous voyez que désormais, on unit l'onction des malades au moment de la mort. Oui, il y avait une...
Evelyne, dans ce que vous m'expliquez, ce que vous nous expliquez là, je ne sais pas pourquoi ça me fait beaucoup penser à tous ces rites chamaniques.
Oui, au sens que font partie... Là, j'essaie de prendre votre suggestion qui me semble intéressante. Il y a une couche quand même anthropologique très forte dans toute société. Hein.
Oui, oui.
Il y a des malades et on essaye de les guérir.
Oui. Naturellement, par des incantations, par des gestes. Voilà.
Là, dans le cas précis, j'insiste beaucoup, ce n'est pas le cas du christianisme. Au moins, tel que Jésus le pensait et tel que Jésus l'a transmis à ses disciples. Ça y est. Parce qu'il dit simplement, allez visiter les malades, faites-leur une onction. Je vous rappelle, l'onction, ce n'est pas de l'ordre d'un geste chamanique, et de l'ordre d'un geste sacramentel. Elle veut dire, par un geste corporel, je dirais, hein, que Dieu agit, que Dieu est présent. Il n'est pas là pour guérir en vérité, il est plutôt là pour dire que Dieu est proche de celui qui souffre, que Dieu est proche de celui qui est malade. Vous voyez, mais par contre, vous avez raison de dire que au moment où je commence à parler du 8e et 12e siècle, l'évolution du sacrement ou du geste lié à l'onction devient plutôt négative. Le fait de la mettre seulement du côté de la mort est plutôt négatif, effectivement. C'est ça qui est un peu gênant. Mais je termine l'histoire et puis vous comprendrez mieux.
D'accord.
Et donc, pourquoi on rapproche l'onction des malades au moment de la mort? Parce qu'il y a comme une sorte de glissement qui se généralise à cette époque et qui cause l'association de fait de l'onction avec le sacrement de pénitence au moment de mourir. Oui, on rapproche le fait qu'il faut se confesser, pour le dire concrètement, au fait qu'on est en train de mourir. Et donc, du coup, puisqu'il faut se confesser avant de mourir, il faut aussi apporter l'onction des malades. Donc, on unit les deux sacrements. Vous comprenez ça, ce que j'essaie de vous dire? On relie les deux sacrements. Réconciliation, pénitence, confession et onction des malades. Et donc, c'est là, et vous pouvez le noter, c'est là qu'on commence à parler de ce sacrement comme de l'extrême onction. Comme de l'extrême onction. Parce qu'il arrive au moment de la mort, parce qu'il faut le donner au moment de la mort. Entre le XIIe et le XVIe siècle, nous constatons une autre évolution. En effet, on a tendance à cette époque, entre le XIIe et le XVIe siècle, on a tendance à ajouter l'onction au sacrement de pénitence de plus en plus. Elle est d'ailleurs déjà courante dans la pratique sacramentelle de cette époque, sur laquelle la théologie, je vous rappelle, XIIe siècle, la théologie scolastique, sur laquelle la théologie réfléchit. Et donc, le lien avec la discipline pénitentielle est évident à cette époque-là. De quelle manière? On pense que le danger de mort est la condition préliminaire pour recevoir le sacrement de l'onction. Si on n'est pas en danger de mort, on ne peut pas recevoir le sacrement de l'onction. C'est un changement énorme par rapport à la pratique précédente. Hein? Et donc, on s'oriente vers un type unique de rituel qui contient les rites destinés à celui qui s'approche de la mort, qui vont être regroupés tous ensemble. Nous le verrons quand nous parlerons des funérailles. Puis, dernière étape, ou avant-dernière, parce qu'il y a aussi celle du Concile Vatican II, entre le XVIe et le XXe siècle, eh bien, le Concile de Trente, désormais vous êtes très fort pour voir les époques historiques, je suis sûr. XVIe siècle, c'est le Concile de Trente, réaction aux protestants. Eh bien, le Concile de Trente, bien qu'il partage les options doctrinales de la théologie scolastique concernant le sacrement des mourants et du Concile de Florence, eh bien, ce concile, le Concile de Trente, prend ses distances par rapport à l'aspect unilatéral exclusif de cette théologie, même si le Concile de Trente envisage l'onction comme le corollaire de la pénitence. Comme le corollaire de la pénitence. Et donc, le Concile de Trente considère l'onction des malades comme ce qui achève non seulement la pénitence, et donc son lien avec la mort, mais achève aussi toute la vie chrétienne. dans une vision un peu négative de la vie chrétienne considérée comme une vie de pénitence, comme une lutte incessante contre le péché. Vous entendez les aspects très négatifs, pessimistes, je dirais presque, une vision presque pessimiste et négative de la vie chrétienne. Hein? Donc, du coup, l'onction des malades devient comme une sorte de sacrement final de cette lutte de toute une vie contre le mal, dont le plus grand est la mort. Et donc, le rituel de l'onction consacre la pratique liturgique du sacrement telle qu'elle est fixée au Moyen-Âge et souligne son caractère pénitentiel, son lien avec la mort, même si certains textes expriment la thématique de la tradition précédente que nous avons vue. Qu'est-ce qui se passe au Concile Vatican II? Qu'est-ce qui se passe? Et je termine avant une petite pause par cette dernière étape. Eh bien, le Concile Vatican II va effectivement demander dans le numéro 73 de la Constitution sur la liturgie, je vous le rappelle, le texte charte, la charte principale pour la réforme liturgique, elle va avoir un numéro spécial, en particulier, sur le fait qu'il faut restaurer, renouveler l'onction des malades. Eh bien, le Concile ne prétend pas donner une doctrine sur l'onction des malades, mais bien se propose de réviser les rites, toutefois par le fait qu'il appelle ce sacrement « onction des malades » tel qu'on le voit dans le numéro 73, il prend d'une certaine manière position dans ce débat théologique. Pourquoi ? Parce que naturellement, il ne va pas l'appeler « extrême onction ». Vous voyez, il évite de l'appeler extrême onction. Mais l'appelant onction des malades, on a comme l'impression qu'on veut revenir à une théologie, on pourrait dire, originaire de ce geste, d'une pratique originaire telle que nous l'avons vue dans les premiers siècles de l'Église. En outre, en ce qui concerne le sujet du sacrement, les pères conciliaires ont voulu favoriser l'interprétation la plus large possible du malade en danger de mort afin d'éviter la casuistique, les inconvénients qu'entraînait pour la pastorale la pratique d'un sacrement qui était lié à la mort. Vous voyez, parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez bien imaginer que au Moyen-Âge et avec le rituel du Concile de Trente, je le répète, on pouvait célébrer le sacrement, l'extrême onction, simplement si la personne était vraiment en train de mourir. Et donc, il y avait toute une casuistique qui était née, mais qu'est-ce qu'il fait? Quels sont les signes parce qu'il est en train de mourir? Mais est-ce que jusque-là, est-ce qu'on peut le donner? Jusque-là, est-ce qu'on ne peut pas le donner? Vous voyez? Donc, le Concile Vatican dit, il n'est plus raison de prendre en compte ça. Hein? Et donc, malade est toute personne qui vit un état de malade. Et pas nécessairement parce qu'il est en train de mourir. Okay. Il élargit la notion de maladie telle qu'entre autres la société a pu en voir l'évolution. D'où les deux rituels, je vous les ai indiqués là, hein, le rituel en langue latine le 30 novembre, donc il y a eu là donc, deux éditions en 72, et puis le rituel en langue française en 77. Le rituel en langue française, je l'ai ici. Donc, vous le voyez là. Et je vous propose donc de nous arrêter à la fin de ce parcours historique. Après la pause, nous allons parler du sacrement en tant que tel et de voir la richesse de la célébration. Mais avant de faire la pause, est-ce qu'il y aurait l'une ou l'autre question que vous voulez poser ou remarque que vous voulez faire de clarification? Voilà. Anaïs, c'est la première qui lève la main. Vous pouvez allumer le micro?
Oui, je voudrais un petit éclaircissement concernant l'onction des malades et la messe des malades où on demande aux paroissiens, s'ils sont malades, de venir recevoir l'onction pendant la messe.
Oui. Oui, c'est une mise en œuvre pastorale tout à fait intéressante, qui est significative de cette évolution du sacrement. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on dit, il n'y a pas que l'Église qui va à la maison du malade, mais on peut montrer que les malades sont au milieu de la communauté chrétienne, qui font partie de la communauté chrétienne, et donc, quand ils le peuvent, sont invités à venir à une messe de la communauté chrétienne, et là, ils reçoivent l'onction des malades. Vous remarquez que, on le dira encore après, cela est très significatif et très parlant, parce qu'on voit que il y a le souci, toute la communauté chrétienne a le souci de ses membres malades. Vous voyez? Et c'est très beau comme signe. Hein? Oui. Mais les deux peuvent cohabiter, ou bien peut y avoir la visite, même d'un laïc, je vous fais remarquer, chez les malades. Ou bien les malades viennent à l'église et on célèbre la messe et ils reçoivent l'onction des malades. Oui.
Merci.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Tout était compréhensible? Ça marche?
Oui, moi j'ai une petite question.
Oui, Inès.
Vous venez de dire que c'est aussi un laïc qui peut administrer ce sacrement?
Oui, alors, pas administrer le sacrement en tant que tel, mais je dirais faire partie de cette administration. Par là, je vous l'expliquerai mieux la prochaine fois. C'est-à-dire, on ne va pas chez le malade simplement pour lui donner le sacrement des malades. On va aussi là pour lui apporter la communion, par exemple, vous voyez, pour vivre un moment de prière avec eux. Avec lui ou avec elle. Et donc, ça fait partie des possibles étapes du sacrement. Nous le verrons tout à l'heure.
D'accord, merci.
Est-ce que c'est pour éviter une confusion entre les sacrements qu'on demande aux personnes qui vont recevoir l'onction des malades de recevoir le sacrement de réconciliation avant?
Je n'ai pas compris. Est-ce que
pour éviter une confusion des sacrements,
oui,
réconciliation et onction des malades, qu'on demande aux personnes qui vont recevoir l'onction des malades de recevoir le sacrement de réconciliation avant?
Alors, justement, là, c'est un point assez, un peu pas tendu, mais pas, je trouve que dont il faut se rendre compte. Il n'est pas nécessairement, justement, d'être confessé de s'être confessé avant de recevoir le sacrement des malades. Ça, c'est une conception encore avant le Concile Vatican II. Le rituel ne demande ça, parce que parfois, il peut y avoir vraiment des abus en cela. Hein. J'ai eu des exemples très, très tristes, je dirais, d'un prêtre qui refusait de donner la communion à une malade parce qu'elle ne s'était pas confessée. Ce n'était pas dans son droit. Ce n'était pas dans son droit. La question de se sentir en grâce de Dieu, c'est une question personnelle, de conscience. Voyez, il ne faut pas penser au sacrement simplement comme à nouveau, comme une obtention d'un tampon. Voyez. Et alors, du coup, il faut éviter d'unir. Alors, ça peut arriver que le malade demande aussi de vivre le sacrement de réconciliation. Mais il ne faut pas le voir. Sinon, on revient à une théologie qui unissait la question du péché à la question de la maladie, ce qui est très grave, voyez. Je ne sais pas si je me suis expliqué.
Si, je comprends bien, mais moi j'avais l'impression que justement que les deux, je n'ai jamais reçu moi le sacrement des malades, mais j'ai accompagné une...
Les deux ne sont pas donnés en même temps.
J'avais accompagné une personne qui se préparait à la confirmation pour recevoir le sacrement des malades et le prêtre lui avait proposé avant de voir le sacrement de réconciliation.
On peut lui proposer, bien sûr, voilà. Mais ce n'est pas obligatoire.
D'accord. Et je me demandais si c'était pour justement marquer qu'il n'y avait pas, que le sacrement, que l'onction des malades n'était pas un sacrement de réconciliation.
Voilà. Il faut être clair avec ça. Ce n'est pas un sacrement de réconciliation, d'accord. Effectivement. On fait une pause de 5 minutes. On se dit qu'à 30, 31, entre 30 et 31, on se voit. À nouveau l'écran. Et donc, voilà, le rituel en langue française, je vous disais, est édité en 1977, et que peut-être nous allons rentrer là dans le rituel lui-même. Quelles sont les caractéristiques principales de ce rituel? Tout d'abord, je vous ferai remarquer, surtout pour l'adaptation française, vous voyez, pour l'adaptation française, c'est le mot même du rituel. Excusez un instant. Je ne suis pas tombé de ma chaise, mais j'ai eu un appel téléphonique, excusez-moi, qui est assez important. Voilà, je vous disais, quelles sont les j'ai couru. Quelles sont les caractéristiques principales, les plus importantes? Tout d'abord, je disais, déjà le titre du rituel, je vais repartager le... Regardez, le rituel dit « Sacrement pour les malades, pastoral et célébration » au pluriel. Hein? Donc déjà, l'idée de dire, bon, ben, nous l'avons remarqué, déjà le concile l'avait souligné, c'est pas l'extrême onction, mais c'est un sacrement pour les malades. Même, vous voyez, il y a le mot au pluriel, sacrement au pluriel, c'est pas le sacrement des malades, hein, mais sacrement au pluriel, nous verrons dans quel sens. Et puis, l'adaptation française, je vous dis que ça c'est propre à l'adaptation française, dit pastoral et célébration. Alors là, en effet, on voit que le titre manifeste déjà son esprit. L'onction des malades est insérée dans l'ensemble de la pastorale des malades, dans l'ensemble de la pastorale des malades, dont la dimension ecclésiale est soulignée. En effet, c'est l'Église tout entière obéissant au Christ, qui doit avoir de la sollicitude pour les malades. C'est l'Église toute entière, en obéissant au Christ, qui doit être solidaire, qui doit avoir une sollicitude pour les malades. Et donc, là aussi, un changement, et ça prolonge un peu ce que Inès demandait tout à l'heure, cette sollicitude n'incombe pas uniquement aux prêtres, mais à toute la communauté chrétienne, à toute la communauté chrétienne. Donc, quelles sont les caractéristiques principales? On va le regarder de plus près. À partir, vous rappelez toujours nos notes doctrinales et pastorales. Vous avez, je vous la laisse lire par vous-même, la très belle lettre apostolique du pape Paul VI. Hein. Je vous l'avais fait remarquer déjà la dernière fois. Vous voyez comment le pape Paul VI aimait se signer « serviteur des serviteurs de Dieu hein. ». Donc, du coup, et il écrit cette lettre pour promulguer le rituel. Et donc, il vous dit quel est le sens. Voilà. Et puis, nous allons voir par contre, justement, donc, tout de suite, les notes doctrinales et pastorales. Les notes doctrinales pastorales commencent par un constat. Le constat que le monde est affronté à la maladie. C'est un constat presque, on pourrait dire, anthropologique. Il y a une sorte de perception de la fragilité de la personne humaine. Regardez ce que dit, par exemple, tout simplement le numéro 1. L'existence de la souffrance est une des grandes questions posées à la conscience des hommes. Elle est parfois perçue comme un scandale. Cette souffrance revêt des formes diverses. La maladie n'est que l'une de ces formes. Mais surtout, si elle est grave, elle prend un relief particulier et rappelle que la condition mortelle est une dimension de la vie humaine. Donc, il y a la perception, la première partie, les trois numéros, est importante. Et regardez le numéro 3, ce qui dit la solidarité envers les malades. La lutte contre la maladie n'appartient pas aux seuls malades. Ceux qui sont au service des malades doivent étudier ce qui peut être fait, expérimenter, tenter, pour soulager leur corps et leur esprit. Bon, il y a toute la prise de conscience des initiatives de la science. Et puis donc, là on dit, l'Église les considère comme une certaine participation au ministère du Christ, soulageant les malades. Alors, c'est assez intéressant et c'est assez fort. Est-ce que vous vous rendez compte quand le texte dit « Les initiatives de la science et de la technique au service de la vie, les efforts et la compétence déployés au bénéfice des malades, l'Église les considère comme une certaine participation au ministère du Christ. » Et donc, du coup, comme dire, les médecins eux-mêmes, les infirmiers participent au ministère du Christ qui soulageait les malades. Donc, c'est très important cela. Hein. Il dit tout le temps la passerelle qui peut être faite avec justement les situations humaines qui peut-être ne sont pas nécessairement croyantes. Hein. Il peut y avoir le médecin non-croyant, mais qui, par son métier, participe, dit l'Église, au ministère même du Christ. Et puis donc, une fois prise en compte le strat plutôt anthropologique, on en vient au strat plutôt de foi, de confession de foi, le chrétien avec le Christ face à la maladie. Et donc, regardez ce que dit le numéro 4 qui souligne cela. Atteint par la maladie, le chrétien partage la condition humaine. Le chrétien partage. Le chrétien n'est pas au-dessus de l'humanité. Le chrétien est au cœur de l'humanité. C'est ça que veut dire le texte. Avec la lumière de la foi, il se sait encore aimé par le Christ. Celui-ci, durant sa vie mortelle, a si souvent visité et guéri les malades. Il a refusé qu'on les tienne à l'écart. Voilà. Il y a toute la... ça résume un peu ce que le Nouveau Testament dit lui-même. Et là, le numéro 2 dit ceci, « Si la foi révèle un certain lien entre la souffrance et la condition pécheresse de l'humanité, on ne peut, ça c'est important, hein, je reviens à la suggestion, à la remarque de Claire là. On ne peut, sauf exception, considérer la maladie comme une punition infligée à chacun par ses propres péchés. La foi du chrétien malade le conduira à assumer sa situation en luttant pour sauvegarder sa santé et remplir ses responsabilités. Mais il portera aussi un témoignage lié à son état. Et donc, il dit comment le malade doit vivre la maladie. Voyez-vous, je vous laisse lire. Voilà. Et puis, donc, c'était la condition humaine, la condition du chrétien malade. La communauté chrétienne, elle est malade. Alors là, le texte dit...
J'ai une question, excusez-moi.
Oui, Judith.
Qui me vient. Est-ce que vous pouvez remonter le texte,
oui,
justement, pour que je vois.
Là.
Voilà. Alors, mais il portera aussi un témoignage, donc le chrétien,
oui,
lié à son état, en continuant à aimer, en poursuivant ses tâches, en vivant dans l'espérance. Et d'un seul coup, je reviens sur une question que je crois que je vous avais posée.
Oui.
Quand la maladie est psychiatrique.
Oui.
Et que du coup, il y a un détachement un peu peut-être affectif. Comment, oui, c'est considéré tout ça?
Ben là, ça fait partie d'une maladie. Et donc, effectivement, vous dites, qu'est-ce qui se passe de la part de celui qui la vit?
Oui, puisque là, il y a une demande.
Une prise de conscience, plutôt.
Voilà.
Mais dans ces cas-là, il faut. Comment on peut dire? On pourrait dire que ce qui entoure ce malade-là supplée à son incapacité, d'accord, au sort. Capacité moindre de s'apercevoir de sa propre maladie.
Finalement, comme quand des parents amènent un enfant au baptême.
Exact.
Nous, c'est, voilà,
c'est tout à fait exact. C'est une belle clé d'interprétation. Je vous félicite, Judith. Non, c'est comme ça qu'on comprend les sacrements. Hein. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose à rapprocher à la non-capacité que quelqu'un a, par exemple, de parler, comme pour le baptême. Hein. Mais là, du coup, les parents supplient ou prennent le relais pendant une période de la vie jusqu'à ce que l'enfant soit capable de parler, n'est-ce pas? Et là, c'est pareil pour un malade qui ne serait pas conscient de sa propre maladie. Le premier devoir de l'Église, au-delà de ce qui l'entoure, est d'être proche de ce malade et de faire ce que lui ne peut pas faire au niveau de faire tout ce qui est dit là, si je peux dire, hein, mais en le lui donnant. C'est ça qui peut être beau et tout à fait sacramentel, voyez.
Qui nous engage vraiment auprès des malades, finalement.
Exact. Hein? Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas à nouveau, quand on dit sacrement au pluriel pour les malades, ce n'est pas que l'onction. Je vous invite à penser vraiment ce sacrement comme ayant plusieurs étapes, plusieurs facettes, plusieurs possibilités d'être vécu. Hein? Plusieurs moments. Mm-hmm. À des moments différents. Et alors, ce qui me permet aussi de dire, votre question me permet de dire, de souligner, vous entendez bien que là, le sacrement n'est pas que le moment sacrement, c'est le moment où je vais oindre le malade. Mais sacrement commence déjà au moment où je fais attention de cette situation du malade, telle que vous la décrivez, Judith. Même la plus extrême. Même la plus extrême. Et donc, voilà, je disais, j'en étais à la communauté chrétienne et les malades. Hein, donc, vous voyez, dès que l'attitude du Christ à l'égard des malades appelle, hein, quelque part, le numéro 8 le souligne, dans le corps du Christ qu'est l'Église, si un membre souffre, tous les membres partagent ses souffrances. Aussi, tous les baptisés ont-ils à cœur de participer à ce service de charité mutuelle au sein du corps du Christ? Ce service peut prendre diverses formes. Regardez justement, hein. Alors, lutte contre la maladie, présence fraternelle et affection apportée aux malades, témoignage et prière de la foi et point de suspension. Vous voyez, ça peut être du plus large au plus proche, vous voyez. Et puis voilà, par ailleurs, lorsqu'elle célèbre le sacrement des malades, la communauté chrétienne est appelée à reconnaître le vrai visage de Dieu qui s'est révélé à l'homme en devenant solidaire de lui jusque dans la souffrance. En même temps, elle est invitée aussi à réaliser dans un comportement ce qu'elle annonce dans le sacrement qu'elle célèbre. Attention aux malades, accueil par la communauté, partage de la souffrance et de l'espérance, ouverte en Jésus-Christ. Et donc, regardez le point 11 qui me semble aussi extrêmement important. Auprès des malades, la famille, l'entourage et les personnels soignants, selon le cas, ont un rôle privilégié. Ils peuvent s'exercer de multiples façons, selon leurs possibilités, leur situation. Trois formes d'aide fraternelle sont particulièrement importantes. Vivre avec le malade, hein, donc reconnaître, voilà. Susciter des liens entre le malade et ceux qui peuvent favoriser son épanouissement. Prêtre, mais aussi personne, mouvement, vous voyez, il n'y a pas que le prêtre. Hein. Soutenir la foi du malade en acceptant de dialoguer librement sur les réalités de la vie, en partageant éventuellement avec lui la parole de Dieu, en lui facilitant la prière, l'accès au sacrement. Par exemple, en favorisant ses déplacements vers l'Église, en lui assurant à domicile le partage de la parole et de l'Eucharistie dominicale, vous voyez. Et vous voyez, on n'oubliera pas le réconfort que le sacrement de l'onction peut apporter à un chrétien soucieux d'assumer dans la foi une vie gravement contrariée par la maladie et l'infirmité. Voilà. Et alors, regardez les chemins des malades, une présence fraternelle des sacrements. Quels sont les, regardez, hein, parmi les gestes d'aide et de soutien, des signes particuliers lui sont proposés. Hein. Et donc, ce sont les sacrements. Alors, on a la visite aux malades, c'est une des formes, la communion des malades, l'onction des malades, le viatique. Le sacrement des malades en danger de mort, la confirmation en danger de mort, la recommandation mourante. Il y a différentes situations de malades. Elles peuvent être voilà, dans des situations différentes. Mais je voudrais maintenant regarder le rite lui-même pour vous montrer les grandes possibilités que le rituel donne. Je réduis. Vous voyez bien que le sacrement pour les malades est un ordre rituel, donc de quelle manière il se manifeste. Il y a là, effectivement, l'exemple est donné à partir, je dirais, de...
Doucement.
C'est à moi? Doucement, non. J'avais peur d'aller trop vite. Donc, il y a l'accueil, la liturgie.
Non, pardon, je parle à Homme, mais j'ai réactivé mon micro.
Ah oui, Yolaine, très bien. Je pensais que tu remarques à ma vitesse. Mais bon, il y a l'accueil, la liturgie de la parole, la liturgie du sacrement, vous avez compris, c'est à proprement parler l'onction des malades, hein, et la conclusion. Donc, vous voyez que le rituel nous disait, on peut vivre ou bien le sacrement en tant que tel, l'onction des malades, ou bien vivre la communion, ou vivre un partage de la parole. Donc, vous voyez, ce n'est pas dit que c'est tout le temps comme ça. Voyez, on peut l'adapter, ce rituel. Alors, par exemple, je dis toujours, si on va rendre visite à un malade et qu'on veut partager avec lui aussi un moment de prière, hein, bien sûr, il y a là un rituel que peut être fait aussi par un laïc. Hein, donc, par exemple, dans la communion des malades, c'est un laïc qui la porte généralement, n'est-ce pas? Et bien, vous voyez, il peut y avoir, de manière très simple, il ne faut pas avoir la salutation, peut-être effectivement, si on se dit maintenant, Marie ou Joseph ou Maurice, on va prier ensemble, on peut ritualiser ce moment avec une salutation, voilà, le Seigneur soit avec toi et avec ton esprit. On dit qu'on peut se signer avec de l'eau bénite. On peut prendre même, je dis, tout simplement de l'eau de la maison et se signer en se signant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Même si elle n'est pas bénite, je dirais, hein, mais marquer un signe avec l'eau. Se signer, disons, une préparation pénitentielle. Alors, il ne faut pas penser à quelque chose d'important, mais ça peut être demander pardon, chanter Seigneur, prends pitié, ça peut être lire un passage de l'Écriture qui parle de la situation de Jésus qui guérit, voyez. Cela peut ouvrir à la liturgie de la parole, partager ensemble les lectures bibliques, échanger sur ces lectures bibliques. Ça dépend de l'état du malade, et naturellement, on peut faire une prière ensemble. Là, les termes sont techniques et liturgiques, mais vous voyez bien qu'on peut adapter ces choses-là. Prier le Notre Père ensemble, s'échanger la paix, s'embrasser ou se toucher, signifier par le corps hein, cette présence de Dieu qui est proche. Hein. Donner la communion, faire une prière après la communion et puis bénir hein, ou être béni ensemble hein, par Dieu et terminer le moment de prière. Ou bien ça, c'est la communion malade. Je le répète, tout laïc peut, s'il est naturellement envoyé pour faire ce ministère auprès d'un malade ou s'il demande de le faire auprès des malades qu'il a à la maison, peut-être vécu. Puis l'onction des malades, vous voyez que l'onction des malades, à nouveau, je l'ai mis en parallèle, comporte une salutation, à nouveau le rite, le bénit, l'assignation, l'admonition aux prières. Ça, naturellement, l'onction des malades, et là je réponds à Inès, et naturellement, elle est réservée à un ministre ordonné, qui est le prêtre, pas un laïc. Le laïc ne peut pas oindre avec l'huile de l'onction des malades un malade. Donc ça, ça revient au prêtre. Mais voyez que ce que je voulais vous montrer, que la structure est assez semblable. Vous la voyez, hein, donc je l'ai mis en parallèle pour vous montrer que sont assez. Et ce qui change, c'est plutôt toute cette partie-là, le numéro 9, 10, 11, 12, 13, vous voyez, sont ceux qui font à proprement parler le sacrement, hein, de l'onction des malades. Et là, regardez, le rituel a été très attentif. Pourquoi? Regardez, il prévoit plusieurs schémas de célébration. Il en prévoit au moins quatre. L'une, un schéma, fait penser à une participation d'un groupe. Alors du coup, voilà, il y a un groupe de malades, par exemple, ça peut être dans un sanctuaire ou dans un lieu de pèlerinage, hein. Puis la célébration communautaire, à laquelle faisait référence Anaïs, la messe communautaire, par exemple. Il peut y avoir une célébration festive. Alors, du coup, vous voyez que chaque type de célébration prévoit un aspect particulier. Là, on va souligner la signification de l'huile. Là, on va développer la prière litanique. Là, on commence par l'imposition des mains. Ou bien il peut arriver qu'on ne peut pas avoir de réponse de la part du malade ou des participants. Donc, il y a un schéma qui est prévu aussi en ces cas-là. Vous voyez, donc, toute situation peut être prévue. Puis donc, il y a une litanie, une prière hein, litanique. L'imposition des mains, c'est le geste le plus ancien. Nous l'avons souligné dans le cours sur l'ordination. Il n'est pas que destiné que pour ordonner, mais aussi pour montrer la présence de Dieu, la bénédiction de Dieu. Hein. L'action de grâce, vous voyez qu'on commence par l'action de grâce et la bénédiction de l'huile. L'onction en tant que telle, la prière après l'onction. Et puis, nous retrouvons la même, et puis la bénédiction et la salutation. Alors, je vous fais remarquer une fois de plus, hein, là, il n'est pas, comment on peut dire ça, il n'est pas demandé la confession. C'était pour répondre à Ariane. Hein. Donc, le sacrement de réconciliation, justement, on essaye de le voir comme une proposition, elle disait bien le mot, hein, pas comme une obligation. C'est pas que, pour le dire autrement, c'est pas qu'on peut recevoir tout ça que si on était confessé. Non, il ne faut pas rentrer dans ce type de vision qui serait plutôt la vision, comme dirait le pape François, d'une église douane, pas d'une église hôpital de comment ils disent ça, d'un hôpital de... Je ne me rappelle plus. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est important. Voilà ce que je voulais vous montrer. Vous voyez les richesses d'un tel sacrement. Et tant du point de vue de la possibilité de le vivre, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de ponctuel, mais ça peut être très élargi dans les situations les plus extrêmes ou plus simples, vous voyez. Ça peut être vécu dans une maladie de passage ou une maladie qui est vécue comme un état, vous voyez. Ça peut être vécu de manière ministérielle en l'ouvrant à plusieurs formes de ministérialité, que ce soit le prêtre, si vraiment on vit l'onction, qui peut être réitéré, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais un malade qui vit une condition de malade longue et qu'il sait qu'il vit une maladie dont il fera état pendant 10, 15, 20 ans parfois, hein. Eh bien, il peut être ou en plusieurs fois. L'onction des malades, justement, n'est pas que l'onction donnée quand on meurt, hein, quand on est en train de mourir. Mais cette onction est là pour signifier quelque chose. Hein. Voilà. Et donc, justement, Evelyne, ce n'est pas du chamanisme en ces cas-là. Vous voyez, c'est plutôt de l'ordre d'un accompagnement, d'une présence fraternelle, ecclésiale. Elle signifie plutôt ça. Est-ce qu'il y aurait...
Contrairement... Oui,
oui,
une petite question.
Evelyne, oui.
Alors, tout à l'heure, je crois que c'était Anaïs, non, ou Judith, enfin, bon, bref, qui parlait, qui comparait l'onction des malades à l'accompagnement qu'on peut faire pour le baptême.
Oui, c'était Ariane. Mais...
Donc,
oui, elle parlait des sacrements de l'initiation, oui.
Oui, et en fait, le problème, c'est que le baptême, l'enfant, ou l'adulte d'ailleurs, non, on va dire l'enfant donc, qui n'a pas été initié, n'a pas de connaissance. Dans le sacrement des malades, il y a une connaissance. Mais s'il n'y a pas de désir, est-ce qu'on peut lui imposer comme on impose le baptême?
Ah ben non. Mais on n'impose pas non plus le baptême, je vous ferai remarquer.
Pour un petit bébé, si.
Oui, non, mais on le disait tout à l'heure, on le fait comme une sorte de gage de sa propre liberté, liberté, n'est-ce pas? En disant, je prends la parole pour toi maintenant que tu ne peux pas parler, et puis le jour viendra où tu choisis vraiment, n'est-ce pas?
Oui, mais on voit, on connaît aujourd'hui dans l'histoire de l'Église, actuel des gens qui demandent à être à être débaptisés,
oui, enfin, bien sûr, bien sûr, voilà,
donc,
voilà.
c'était dans cette idée-là, que je disais ça.
Oui, et dans les cas de et là, vous disiez pour le malade, qu'est-ce que vous disiez?
Eh ben, je disais pour le malade, imaginez qu'il ne soit plus conscient.
Ah oui, mais bien sûr, c'est-à-dire si dans sa période de conscience a exprimé le désir de...
Non, justement pas.
Bon, alors, du coup, je pense qu'il ne faut pas. Il faut le vivre de la manière la plus sobre possible. Ouais. À nouveau, c'est moi, je dis un peu ce que je disais avec Judith, c'est moi en tant que croyant qui lui impose pas un sacrement. Je ne vais pas loindre s'il n'a jamais exprimé le désir.
Non, voilà. Bien sûr.
Mais je vais, par contre, peut-être dire notre Père, mais ça, c'est moi et peut-être...
De ma propre chef.
Et peut-être, voilà, chef, ouais. Et peut-être celui qui m'accompagne ou quelqu'un de la famille... Mais parce que ma foi me dit que je peux l'accompagner dans son dernier souffle ou dans son état de maladie, même s'il est perdu,
oui, mais pas lui imposer.
Un coma, par exemple. Hein. Coma, mais je peux prier à côté du malade, mais ce n'est pas que je lui impose quelque chose.
Hein. S'il n'a pas exprimé d'opposition...
Oui, s'il n'a pas exprimé d'opposition, je peux le faire, bien sûr.
C'est comme le don d'organes. Hein.
Oui, bien sûr. Non, je suis d'accord. Mais là, vous voyez, c'est toute une question de tact qui va dans l'intimité des personnes. Donc, il faut faire attention. Hein. Je vous propose, parce que d'ingurgiter tout ce que je vous ai dit, de ruminer tout ce que je vous ai dit, et puis la prochaine fois, surtout que les deux, le sacrement des malades, je dis pas, mais c'est quelque chose qui effectivement ouvre au mystère, entre autres, de la possible mort. Mais nous parlerons la prochaine fois des funérailles. Mais il n'y a qu'un rapport, j'insiste, jusqu'à maintenant, je voulais vous le montrer. Mais par contre, nous commencerons la prochaine fois à nouveau à partir des questions qui vous sont venues entre-temps cette semaine. Alors, il est assez probable, je vais vous annoncer, que nous nous verrons depuis les Reims. Peut-être que je vais descendre à les Reims.
Oh, mais non.
Les fêtes de Pascal. Mais je ne suis pas sûr. Si je descends là-bas, vous me verrez dans un autre cadre. Voilà.
Au bord de la mer.
Ben, ce serait sympathique que je vous amène à la mer, mais je vais réfléchir. Voilà.
Avec les oliviers.
Voilà, peut-être
les
que ça
cyprès,
je peux.
Les cyprès.
Peut-être.
On descend.
Et pas encore les cigales.
Les grands arbres verts.
Vous dites, Denis ?
Je disais, il faut qu'on descende pour le faire en présentiel.
Ah, ça, ce serait pas mal. Mais malheureusement, la communauté n'accueille pas les autres à cause du
Covid.
La situation actuelle, oui.
Ah.
Mais une autre fois, oui.
Hors Covid.
Ah, comment bon.
Hors Covid, on pourrait.
On pourrait faire une session SIF là-bas.
Mais à l'Erin, normalement, c'est en silence.
Non, pas toujours.
Non, pour les autres, non.
Ah bon.
Non, on peut échanger. Mais...
D'accord.
Mais c'est là qu'il faut proposer au SIF. De déplacer les 50 ans et de les faire...
Ah, là-bas, ouais, je suis tout à fait disponible.
Hein, ça serait formidable.
Ça serait un très bon ressourcement.
Bonne semaine.
Et au revoir.
Merci beaucoup, mon père ou frère. Je sais plus
merci.
Oui.
Merci, frère.
Et bon courage à Marianne.
Merci parfait. Beaucoup.
Oui, Marianne.
Merci.
Parfait. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.
Au revoir.